France Inter. France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Jamais nous n'avions connu un événement collectif aussi intense, un événement collectif mondial. Toutes nos rues, du jour au lendemain, étaient des rues vides, d'où que l'on regarde ou presque sur la planète. Chez nous, c'était donc le 17 mars à midi, après avoir dû choisir vite ou s'enfermer. Un moment inédit, un moment suspendu, une sidération et puis une bascule qui, depuis, a laissé des traces et même des impacts dans nos vies. Il y a assurément un avant-après, parce que le confinement, le premier et ceux qui ont suivi, nous servent de marqueur dans le temps. C'était quand déjà le mariage de ton frère? Ben, juste avant le confinement. En quelle année il a eu son bac, ton fils? L'année du confinement. Vous l'avez fait finalement ce week-end à Madrid? Oui, entre deux confinements. S'il n'y a pas eu de monde d'après, il y a eu un « nous ». Après, des traces et des impacts individuels et collectifs, les fractures de famille, les solitudes révélées, les inégalités criantes, les liens retrouvés, les sentiments qu'on a volé nos vies ou le souvenir qu'on a été heureux dans ce temps suspendu. Les traces et les impacts, c'est aussi comment, à l'occasion de ce monde à part, s'est renforcé ou s'est émoussé le lien avec le politique, avec les politiques qui nous ont protégés ou nous ont menti. Le complotisme n'est pas né du Covid, mais l'épidémie couplée aux réseaux sociaux en boucle, seul chez soi, a joué un rôle clé dans sa diffusion. Il y a des votes qui, comme le reste, ont basculé après le confinement. Et puis des révoltes ou des assentiments. Est-ce qu'on aurait pu imaginer un jour devoir montrer des attestations pour sortir hors de chez soi? Est-ce qu'on imagine qu'on l'a fait assez tranquillement? Qu'est-ce que le confinement a fait de nous? C'est le téléphone sonne. Soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Florence, vous êtes la première et vous êtes la bienvenue. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Merci. Merci beaucoup de la qualité de vos émissions. Voilà, ce que je voulais dire, c'était que j'ai été abasourdie pendant cette période de Covid de la docilité avec laquelle, collectivement, nous avons accepté les mesures d'obligation et contraintes qui nous ont été imposées. Et pour ma part, ça m'a beaucoup fait réfléchir, et notamment parce que nous avons été gouvernés par la peur de cette maladie, ça m'a fait réfléchir à la question de la fragilité de la démocratie face à ce type de crise. Voilà.
Et est-ce que ça a changé votre vote ou pas? Puisque j'émettais cette hypothèse en lancement, mais après tout,
non,
j'en sais
alors
rien.
Pour moi, pas du tout. Par contre, ça n'a pas du tout changé mon vote, mais ça a changé mon point de vue sur les professionnels de santé et aussi mon point de vue sur, disons, sur des structures plus macroéconomiques.
Voilà. Et ben merci Florence pour cette entrée en matière et ce démarrage donc de Téléphone Sonne qui nous tiendra jusqu'à 20h avec Laetitia Atlanidio qui est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes anthropologue à l'Université Paris Cité, vous étiez membre du conseil scientifique pendant la pandémie. Avec votre université, avec l'Institut Covid-19 Ad Memoriam, vous publiez Covid-19 Ad Memoriam, fragment pour les mémoires. C'est un livre, c'est tout, surtout un objet mémorial en fait qui est publié à la Documentation française. Vous y montrez des objets, des photos, des témoignages, des dessins que les confinés vous ont partagé avec vous. Et en couverture, je voudrais le dire, puisque ça va avec la question de Florence, il y a une attestation bouchonnée qui visiblement a été récupérée dans une poubelle. Erwan Lecoeur est là également, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, chercheur associé au laboratoire PAC de l'Université de Grenoble-Alpes. Et avec nous, nous verrons justement l'impact politique avec un grand P que le confinement a pu avoir sur nos vies et sur nos choix. Bah, du coup, avec la question de Florence et Erwan Lecoeur, j'ai envie de commencer avec vous. Elle nous dit même que ça lui a fait réfléchir à la fragilité de notre démocratie. Qu'est-ce que vous pensez de cette remarque-là? Est-ce que oui, ces périodes-là nous interrogent sur la fragilité de nos démocraties?
Je crois que la période du Covid nous a interrogés sur la fragilité de nos sociétés, voire de nos civilisations au sens plus large que simplement une démocratie. Et beaucoup de gens se sont posés en effet des questions sur le statut de la science, de la médecine, de la santé. Ça a été un moment extrêmement perturbant pour énormément de monde. Et c'est d'ailleurs sans doute la raison pour laquelle, comme le disait votre auditrice, autant de gens se sont conformés à des choses dont on aurait pu se dire « Jamais on ne me fera rester chez moi aussi longtemps, jamais on ne me demandera un pass pour avoir le droit de sortir ou d'aller faire des courses ou d'aller marcher dans la rue. »
Il y a des...
On s'est conformé parce qu'il y avait quelque chose de massif, d'extrêmement dur, de peur, qui faisait extrêmement peur. Et on n'a pas encore tout à fait tiré les conclusions de tout cela. Cette peur immense a entraîné à la fois des comportements, ça a été dit, mais a aussi entraîné des peurs et des ressentiments dont aujourd'hui on paye aussi le prix quelques années après.
Je lisais, Erwan Lecœur, une étude pour préparer cette émission qui dit que en gros, les citoyens qui ont vécu une pandémie affichent de toute façon une confiance moindre dans les politiques et dans les élections, dans l'après. Est-ce que c'est quelque chose qu'on vérifie 5 ans après ? Est-ce qu'on sait dire qu'il peut y avoir une relation de cause à effet dans la manière dont on vit la politique aujourd'hui, dont on vote, dont on participe au vote ou pas, et cet épisode qu'on a traversé ?
Absolument, il y a des choses qu'on ne peut pas tout à fait évaluer. Le CEVIPOF a tenté d'évaluer notamment la question du complotisme par rapport au type de vote. C'était pas tout à fait probant. Par contre, en effet, cette étude que vous citez, hein, du London School of Economics, il me semble, montre bien que les pandémies en général, les grandes crises pandémiques, entraînent un afflux de ce que l'on appellerait une méfiance à l'égard des gouvernants et de ceux qui sont chargés de résoudre le problème, je le disais en anglais. Et donc, ça, c'est la première chose. Et on a des études qui montrent cela dès le début du Covid. C'est-à-dire que on voit notamment chez les personnes à la tête d'un foyer monoparental qui font montre d'une plus grande fréquence d'affects négatifs. On voit un soupçon qu'on nous cache des informations qui s'accroît à mesure que la taille d'agglomération diminue. On voit un certain type de personnes dans des études qualitatives et quantitatives, notamment des gens qui, juste avant, se disaient par exemple gilets jaunes, et qui, eux, sont très actifs dans, la défiance à l'égard du gouvernement, d'autant que le gouvernement est considéré par une majorité de Français comme ayant, en France, mal géré la crise. Donc ce n'était pas très bien parti non plus de ce côté-là. Et on voit que la crise Covid a vraiment... Elle a accompagné un mouvement qui avait déjà commencé avant la crise Covid, mais elle l'a accompagné, elle l'a, je dirais, amplifié. C'est un mouvement de défiance à l'égard des gouvernants en général et de la manière dont les gouvernants font face aux grandes crises qui touchent nos sociétés.
Une dernière chose, Erwan Lecœur, avant de donner la parole à Laetitia Atlani-Duo, parce que c'est dans la même étude, justement, il faut expliquer aux gens qui nous écoutent, c'est colossal et fascinant, hein, 750 000 personnes, 142 pays, l'étude de la London School of Economics sur la base d'une enquête de Gallup, donc vraiment, c'est fiable. Et cette étude parle aussi d'une montée des partis anti-système. Et vous savez pourquoi je vous pose la question ? Je pense à Trump, en fait, qui occupe toutes nos journées depuis un certain temps, où on a l'impression, là, pour le coup, dans ce pays, c'est peut-être moins le cas dans le nôtre, que c'est cette période-là qui a fait basculer politiquement un certain nombre de gens. Ça se ressent aussi chez nous en Europe ou pas ?
Bien sûr, ça se ressent en Europe, dans un certain nombre de pays, en Italie, en Allemagne, mais aussi dans d'autres pays, et en France également. Alors, peut-être moins aujourd'hui en France qu'aux États-Unis, néanmoins, on va voir aux prochaines élections présidentielles comment cela tourne, mais on a eu des élections récentes où on a bien vu que un certain nombre de partis qui étaient autrefois anti-système sont devenus le cœur du système et pèsent plus du tiers de la représentation nationale. Et donc, nous avons en effet des frontières idéologiques traditionnelles qui se sont brouillées. La tripolarisation du champ politique est venue se surajouter à ça. Et il y a des convergences qui sont tout à fait inédites entre des mouvances contestataires qui autrefois ne se parlaient pas et qui se sont retrouvées autour de l'antivax, puis l'antipass, surtout l'antipass. Et cette crise sanitaire a favorisé la montée d'un confusionnisme politique et idéologique très très fort en Europe et aux États-Unis notamment.
Confusionnisme, Laetitia Atlani-Duo, moi ce que je retiens de ce que nous a dit notre auditrice, c'est j'ai été abasourdie par la docilité collective. Qu'est-ce que ça, vous l'anthropologue, ça vous dit quoi cette remarque de notre auditrice?
C'est une remarque que l'on retrouve dans beaucoup de témoignages qu'on a collectés. Je vous le disais tout à l'heure, je viens de publier un livre. Alors pas seulement, vous le disiez, des témoignages d'expériences de vie en temps de confinement, pas seulement des expériences de vie en temps d'épidémie, et plus exactement de pandémie Covid-19, puisque j'ai collecté énormément de témoignages de Français entre 2020 et 2024. Et ce que présente dans ce livre, avec des extraits de témoignages très forts, avec des photos aussi d'objets du quotidien qu'ont envoyé les Français et avec des dessins de plantus, de manière à choisir des témoignages les plus représentatifs possibles de ce qui nous a été envoyé. Les Français m'ont envoyé ces témoignages avec deux objectifs, c'était la demande. Ils ont répondu à cette demande-là, c'est important de le souligner. D'abord, partager leurs expériences de vie pour les transmettre, y compris aux générations futures. Et puis, deuxièmement, que ce travail de mémoire serve aussi à se préparer aux crises à venir. Pas seulement aux crises épidémiques, pas seulement aux crises sanitaires, mais plus largement à d'autres crises, y compris politiques, voire aujourd'hui relevant de questions militaire,
exactement,
de défense ou de sécurité.
Ce qui m'a frappé en voyant ce que les gens vous ont laissé, c'est qu'ils ont été très nombreux à faire des journaux de confinement, qui sont ceux qui vous ont envoyé, en tout cas, sont extrêmement élaborés. C'est des livres de collage, des mini-maquettes, etc. C'est extrêmement élaboré. Je suis restée sur un qui dit, sur le devant, ça doit être un collage. Attendez d'être prêt à crever pour appeler l'hôpital.
Les témoignages sont très très forts.
Ils sont parfois rudes. Ils sont durs.
Ils sont aussi très intéressants parce qu'ils présentent la diversité des expériences. On parle de défiance, mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de récits de maladies, il y a des récits de deuil, de mort, mais il y a aussi des gens qui disent, et je reprends leur terme, ce fut une période bénie pour moi.
Et on va en entendre ici, parce qu'il y a plein de gens qui nous disent, moi j'ai été heureux pendant le confinement. Et alors, avant qu'on prenne un auditeur, je voudrais juste qu'on s'arrête sur cette phrase, Laetitia Aclanidio. Il y a même quelqu'un qui nous dit, moi j'ai un peu honte de le dire, mais j'ai été heureux pendant le confinement. Comme s'il y avait quelque chose de presque inavouable, en fait.
Ils le disent comme ça. Certains des témoignages commencent par, écoutez, je suis désolée. Ouais. Je suis désolée de le dire, mais je tiens à le dire. Ce fut une période bénie. Une période bénie parce que je me suis retrouvée, parce que j'ai retrouvé mon compagnon, parce que j'ai revisité mes priorités, parce que j'ai déménagé, parce que j'ai divorcé. Ce fut une période bénie parce que j'ai accompagné un proche à la mort dans les meilleures conditions possibles. Voilà, donc on a une série de témoignages tristes, plein de deuil. Et on a aussi beaucoup de gens, par exemple des Covid longs, qui portent des témoignages extrêmement forts. Donc, mais il n'y a pas eu que ça. Il n'y a pas que la défiance et qu'il n'y a pas que la confusion politique.
Et heureusement, d'ailleurs, je voudrais justement qu'on écoute Elisabeth qui est à Nice. Bonsoir Elisabeth.
Oui, bonsoir. Alors moi, j'ai une expérience contrastée avec des choses difficiles et des choses positives. Donc j'avais envie de parler des choses positives et en particulier d'une expérience qui est un collectif qui s'est créé, un collectif d'entraide entre habitants de la ville pour se rendre des services. Donc au début, ça a été surtout les masques, puisqu'ils étaient en tissu au début, donc fabriqués et livrés à porter des masques. Puis, allô ?
Oui, je vous entends, je vois bien que ça sonne de votre côté, mais faites comme
ensuite,
si...
Et ensuite, au fur et à mesure que ça s'est un peu structuré, ça a été des échanges de services de tous ordres, des partages de compétences de tous ordres, avec une réunion...
Votre appel a été mis en attente.
Ah bah écoutez, on a eu une petite interférence, mais on a entendu ce que nous disait Elisabeth, Laetitia Aclanidio. Cette espèce d'ambivalence, en fait, bien sûr que c'était pas toujours facile, et on a créé des choses, en fait, pendant
et
ce moment-là.
L'intervention de cette auditrice est aussi très intéressante, parce qu'en effet, ce qui ressort de beaucoup de témoignages qui sont présentés dans ce livre, c'est aussi que peut-être, en France, on a tendance à beaucoup attendre de l'État, voire tout attendre de l'État, beaucoup critiquer l'État. Mais ce qu'on voit aussi dans les témoignages, c'est à quel point les solidarités locales ont permis de tenir dans la durée. Des solidarités familiales, dans les quartiers, dans les immeubles. Il y a des gens qui racontent à quel point, finalement, les colis alimentaires ont été essentiels, qui racontent aussi... par exemple, il y a des photos extraordinaires d'étiquettes collées dans les halls d'immeubles où les gens proposaient qui un chien pour sortir, qui une aide médicale, qui finalement un temps de parole.
Parce qu'on parle beaucoup d'auditeurs nous parlent de ces attestations en disant quand même comment on a pu accepter ça, mais ils nous racontent tous aussi, là je les ai sous les yeux, comment ils ont triché. On a tous fait ça d'ailleurs, en ayant une dans chaque poche ou en la refaisant tout simplement sur nos téléphones. C'était très facile de contourner.
Tout le monde le raconte. Il y a aussi des façons de le raconter complètement décalées, extraordinaires. Dans le bouquin, il y a par exemple une calligraphie, une attestation de sortie qui a été entièrement calligraphiée et qui est extraordinaire. Donc il y a des détournements, y compris esthétiques, voire artistiques.
Il y a des choses très jolies, effectivement, qui ont été inventées pendant ce confinement. Je vois des boîtes, je vois des colis, je vois vraiment des livres qui sont incroyables. Erwan Lecoeur, un mot là-dessus, ce que nous dit notre auditrice, au fond, enfin ce que je comprends de ce qu'elle nous dit, c'est que les confinements nous ont éloignés des institutions, mais rapprochés de nous-mêmes, et peut-être donc de ce qui est le plus proche de l'associatif. Et finalement, c'est assez conforme à la manière dont, de toute façon, la politique fonctionne aujourd'hui. Non, où on s'éloigne des partis, mais on va vers des choses qui nous sont plus quotidiennes et plus actives, comme les associations.
C'est tout à fait ça, et même les politiques, mais également les médias. On voit bien qu'il y a depuis maintenant une dizaine d'années un très fort renforcement de la confiance dans les proches, c'est-à-dire les amis, la famille, les très proches. Et l'étude de l'Obsoco qui avait été menée pendant le confinement, qui est très intéressante, hein, qui s'appelle Le jour d'après, sur une cinquantaine de Français et plus une étude quantitative, montrait qu'il y avait des bénéfices collatéraux du confinement. Hein. Beaucoup de Français, 35%, disaient avoir renforcé leur lien avec leurs voisins à la faveur de cette crise. Les voisins, la socialité primaire, hein, famille, amis, connaissances, tout ça, ça s'est renforcé. Faut pas oublier un autre phénomène aussi. Beaucoup de gens, là on parle de ceux qui avaient des voisins, ceux qui ont pu faire cela et qui ont donc cette espèce de sentiment de « Ah, pour moi, ça s'est plutôt bien passé », puis il y a tous les autres, les plus jeunes, ceux qui n'étaient pas socialisés ou ceux qui étaient seuls et qui ont eu d'autres symptômes, et notamment les écrans, hein, qui ont énormément, qui ont joué un rôle absolument phénoménal dans la façon dont le Covid et le confinement s'est joué pour tout un tas de gens. Et les écrans ont joué aussi un phénomène très très important de repli sur soi, parce que ce repli sur soi sur les voisins et les proches a aussi entraîné un repli sur soi plus large, où en gros, on a vu qu'avec le Covid, beaucoup de gens ont considéré qu'il fallait arrêter d'aider l'étranger, il fallait s'aider soi-même, qu'un certain nombre de phénomènes comme cela allaient être un phénomène de repli sur soi global, hein, puisque notre société est en danger, eh bien on revient à l'essentiel, on revient à soi, quitte éventuellement à repousser un peu l'étranger, le reste, le monde notamment.
C'est ça, c'est une espèce de poussée d'homophilie, comme on dit, Erwan Le Coeur, c'est-à-dire on se rassemble avec ceux qui nous ressemblent, on aime ceux qui nous ressemblent, et au fond, c'est pas qu'on est plus curieux de l'extérieur, c'est que de toute façon, on n'a plus accès à l'extérieur.
Absolument, on n'a plus accès à l'extérieur, et donc on se recentre sur l'essentiel, sa famille, ses amis, et puis ceux qui nous ressemblent à travers les bulles Internet, notamment, et les réseaux sociaux sur lesquels on se fait de nouveaux amis pendant tous ces moments où on ne peut plus s'en faire de réel. Et on voit bien une génération Covid dont on n'a pas encore exploré toutes les limites, une génération de gens qui étaient jeunes, entre 10 et 25 ans à cette époque-là, et qui ont vécu des moments de socialisation très particuliers, au moment où justement l'identité se forme, à l'adolescence notamment, sur la socialisation primaire, mais aussi les socialisations secondaires, qui n'ont en l'occurrence pas toujours eu lieu. Et donc on a des gens qui sont toujours dans le syndrome de la cabane, ils ont toujours du mal à sortir de chez eux, et des personnes âgées, mais aussi des plus jeunes.
Et bien voilà quelqu'un justement qui était très jeune pendant le confinement, c'est Julia, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, Julia.
Alors, je venais d'avoir 14 ans quand le confinement a commencé et je pense que ça a été une des meilleures périodes de mon adolescence. Et j'ai eu la chance de grandir dans une famille qui est aimante, qui est d'un milieu favorisé. Et en fait, aujourd'hui, j'ai un peu honte de dire que le confinement m'a rendue si heureuse parce que ça m'a permis de passer du temps à faire du sport, cuisiner, jouer du piano, lire. Et j'ai continué d'obtenir d'excellents résultats scolaires. Et en fait, je pense que sur le coup, j'avais conscience de la gravité de la situation. Mais je me sentais pas particulièrement touchée parce que je connaissais personne qui était victime de la maladie. Mmh. Et donc j'en garde un très bon souvenir.
Merci beaucoup Julia pour ce témoignage, c'est intéressant. Laetitia Tlanidio, comment on peut les uns les autres avoir traversé cette période-là, comme Julia qui le dit elle-même d'ailleurs, hein, qui est dans un milieu favorisé, qui est entourée, qui a pas eu de problème de solitude ni d'amour autour d'elle. Et puis je suis en train de lire le message de Natacha qui dit le confinement une période bénie. Attendez, pour ceux qui n'étaient pas en première ligne, certainement oui. Et pour ceux qui n'étaient pas aussi touchés par la maladie. Comme s'il y avait en fait un monde entre deux personnes ayant vécu la même chose au même moment.
Mais absolument.
Ce qui n'est pas très étonnant, par
ailleurs. J'attendais de pouvoir le dire. Certes, pour certains, ça a été une période heureuse, et ils tiennent à le dire, et le témoignage de Julia est très représentatif. Mais, et on le voit dans l'ensemble des témoignages collectés, ça a été une période surtout très douloureuse pour beaucoup de gens. Il ne faut pas oublier les morts, il ne faut pas oublier les familles endeuillées qui n'ont pas pu accompagner les mourants pour certaines, qui n'ont pas pu dire adieu, qui n'ont pas pu les enterrer dignement. Il ne faut pas oublier tous ceux qui n'ont pas pu être soignés pour d'autres maladies, en particulier de maladies chroniques, dans les meilleures conditions possibles. Il ne faut pas oublier, je le disais tout à l'heure, les Covid longs qui vivent encore aujourd'hui une souffrance importante. Et surtout, il ne faut peut-être pas non plus oublier... On parlait des associations tout à l'heure. Le rôle des associations de personnes victimes de Covid-19. Très vite, des associations se sont formées, en particulier par des gens qui avaient perdu des proches. Ces associations ont été très très peu entendues, très peu écoutées. Une de leurs demandes, par exemple, aujourd'hui, depuis des années déjà, demande que j'accompagne, que d'autres accompagnent.
Le mémorial,
c'est
bien sûr.
Une journée d'hommage inscrite au calendrier national. Parce qu'il faut prendre acte de ce qui s'est passé, de ce qui s'est passé de positif, mais aussi de très douloureux. Et il faut remercier au sens fort du terme, non seulement les soignants, non seulement Ça veut dire un hommage aux morts, aux endeuillés, aux invisibles, mais la société française tout entière.
Ça veut dire qu'il y a, et on posera d'ailleurs la question à Erwan Lecoeur différemment, ça veut dire, Laetitia Atlani-Duhaut, qu'il y a il y a toujours un silence à briser, en fait, 5 ans après. Est-ce que c'est comme ça que ça se résume ?
C'est vraiment ça, et on est nombreux aujourd'hui à le dire, à l'écrire et à le dire ensemble. Je travaille énormément avec les associations de personnes victimes et avec les acteurs de santé. Et il y a une vraie demande d'une journée d'hommage. Pourquoi ce choix ? Pourquoi ce choix d'une journée d'hommage inscrite au calendrier national ? Parce qu'il y a une vraie demande de reconnaissance de ce qui s'est passé. Beaucoup vivent encore avec les conséquences à long terme de cette pandémie, des traces intimes ou collectives, des traces qui, aujourd'hui encore, ont un impact majeur sur leur vie. Et il y a une très forte demande portée par les associations de personnes victimes pour cette journée d'hommage qui, pour l'instant, n'a toujours pas reçu une réponse positive de l'État.
On parlait d'un silence à briser, Erwan Lecoeur. Je me demandais s'il y avait aussi une sorte d'ajorniamiento à faire, en fait, s'il avait été réellement fait, ne serait-ce que dans la manière dont tout cela a été géré. Alors, bien sûr, on se souvient qu'il y a eu un certain nombre de procédures autour d'Agnès Buzyn, etc. Il y a des choses qui ont été dites. Est-ce qu'il aurait fallu ? Est-ce que ça aurait eu du sens ? Est-ce que ça nous permet de mieux repartir, là, pour le coup, dans notre démocratie, si notre manière de faire du politique avec un grand P dans la cité, si on s'était mis tous autour d'une table en disant voilà ce qu'on aurait dû faire, voilà ce qu'on n'a pas fait, oui on s'est trompé sur le masque, est-ce qu'on a tout entendu et tout dit qu'on aurait dû entendre à votre avis ?
Il me semble assez évident que non, qu'il n'a pas été dit un certain nombre de choses essentielles alors qu'on sortait d'une crise, pour le coup, essentielle, dans laquelle on avait vu qu'il y avait des gens qui étaient essentiels, auxquels on devait notre vie. Il y avait quelques métiers qui étaient absolument essentiels et c'est les plus mal payés dans notre société. Il y a eu des études sociologiques là-dessus. On n'est pas revenu là-dessus. On a eu toute la période de le monde d'après où on a rêvé que le monde d'après ressemblerait à ce moment un peu calme, un peu tranquille, où on reposerait la question de nos modes de consommation et de production. Ouais. Ça n'a pas du tout été fait. Au contraire, il a fallu repartir plus vite qu'avant encore pour récupérer le PIB, les points de PIB perdus. Bref, nous avons pas du tout fait ni le deuil des personnes qui sont décédées, ni d'ailleurs, nous n'avons expliqué aux gens qui arrivaient, aux jeunes notamment, qui avaient l'impression de payer pour les vieux, pour le dire un peu abruptement. Hein, les jeunes étaient beaucoup moins malades, voire très peu, et ils étaient enfermés pour que les vieux ne meurent pas. Encore une injustice générationnelle de plus. Il y en avait déjà pas mal dans notre société. On n'a pas fait, en effet, le décompte de tout cela, sociologiquement, politiquement. On n'a pas fait un grand moment où on a pu mettre en évidence ce clivage qui se creusait entre le peuple et les élites pendant le confinement, pendant cette période. La critique de la mondialisation aussi qui en ressortait, des frontières qui étaient trop ouvertes, de cette maladie mondiale, l'exploitation des inquiétudes extrêmement fortes que les élites elles-mêmes faisaient vivre sur les inquiétudes socio-économiques. Ça va être la crise, ça va être terrible. Et puis la recherche de boucs émissaires qui ont constitué des axes rhétoriques importants du discours que l'on entend depuis que l'on a entendu à l'époque. Et on n'a pas répondu à ces discours-là. Donc, oui, nous sommes dans une espèce de déni du Covid et nous avons enchaîné une présidentielle, une guerre en Ukraine, l'élection de Monsieur Trump, la dissolution de l'Assemblée nationale. On a l'impression, depuis lors, d'être dans un chaos démocratique, en plus du chaos sanitaire et du chaos écologique.
On a cherché aussi des sauveurs, on y viendra peut-être tout à l'heure, mais des gens qui avaient des clés pour nous aider à comprendre. Je sais que vous voulez intervenir, juste pendant une seconde, je cherche un auditeur, puisqu'ils se répondent les uns les autres. Je suis pour ma part, voilà, c'est ce que je voulais lire, je suis pour ma part, nous dit Lionel, assez rassuré, contrairement à la première auditrice, de notre capacité à nous adapter aussi rapidement aux contraintes, permettant de préserver la vie de millions de personnes. Ça ne veut pas dire qu'on doit réfléchir, évidemment, aux raisons de la défiance qui est parfois irrationnel, qui est irrationnel, dit-il, envers la communauté scientifique. Mais voyez, à la fois, notre docilité nous fait peur, nous dit la première auditrice, et Lionel qui lui répond, moi je suis assez rassurée parce qu'on faisait ça aussi pour sauver les autres. Laetitia Atlani-Duhaut.
Le travail de mémoire, il est nécessaire aujourd'hui. Il ne doit pas faire non plus oublier qu'il y a en effet un retour d'expérience, qu'on appelle un rétex dans certains milieux, une grosse analyse de ce qui a pu se passer pendant cette pandémie en France, qui est absolument nécessaire. Ce retour d'expérience n'a pas été fait. Or, si on ne tire pas des enseignements de ce qui de la façon dont on a vécu cette pandémie, mais aussi de la façon dont on a pu répondre à ce virus et gérer cette crise, il sera très difficile de se préparer aux crises à venir. On nous parle aujourd'hui de crises multiples, de polycrises. On nous parle surtout aujourd'hui de la guerre, de la guerre en Ukraine, d'une guerre peut-être qui vient plus près de nous. Il ne s'agit pas aujourd'hui non seulement d'oublier ou de ne faire que ce travail de mémoire. Il s'agit avant tout que ce travail de mémoire serve à tirer des enseignements de ce qui s'est passé pour pouvoir répondre aux crises à venir. Et c'est à la fois dans le, peut-être en corrigeant certaines épreuves, mais aussi en s'appuyant sur ce qui a pu être fait. On parlait des solidarités locales, mais on a oublié de dire aussi à quel point la pandémie a creusé les inégalités en France. C'est en tirant des enseignements de ce qui s'est passé que peut-être on pourra en ressortir plus fort et se préparer à d'autres crises. Encore une fois, pas forcément sanitaire.
Ce qu'on nous dit et aussi ce qu'on nous a pas dit, il y a beaucoup d'auditeurs qui vont dans ce sens-là. On est en train de se demander ce que le confinement a fait de nous avec Laetitia Atlani-Duo, qui est anthropologue à l'université Paris City, avec Erwan Lecoeur, qui est politologue et chercheur aussi associé au laboratoire PAC de l'université de Grenoble-Alpes. Et avec vous, Bruno, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Bruno.
Alors, moi, je voulais vous faire part de ce que j'ai pu ressentir dès les premiers jours du confinement, à savoir que j'ai eu le sentiment que la nature reprenait un peu ses droits, que ça soit d'ailleurs la faune ou la flore, très vite. Et à cette occasion, je me suis dit, mais est-ce que nous humains, on n'a pas un peu outrepassé nos droits vis-à-vis d'elle ? Ça, c'est le sentiment que j'ai eu très vite au bout de quelques jours. Et puis aujourd'hui, j'ai l'impression que j'en ai tiré des leçons, à savoir, il me semble que j'ai beaucoup plus de respect aujourd'hui, depuis le confinement, pour la nature en général, qu'elle soit faune ou qu'elle soit flore.
Eh ben, écoutez, tant mieux. Hein, merci beaucoup Bruno. La nature qui aurait en quelque sorte repris ses droits, Laetitia Atlani-Duo, est devant nous. Ça montre aussi l'impermanence des choses et surtout de nous, en fait. C'est ça que ça dit aussi peut-être ce message de Bruno, non ?
Oui, le message de Bruno est très fort aussi. Il se retrouve dans beaucoup de témoignages. Des gens qui, en effet, par exemple, des urbains, des gens qui vivaient à côté de parcs, mais aussi des gens qui, avant même la pandémie Covid-19, avaient, par exemple, décidé de changer de vie et d'aller vivre à la campagne, et qui racontent à quel point ce temps suspendu, ce temps arrêté, a été un moment de recueillement, où on a pu, pour beaucoup d'entre nous, pas les soignants, pas le personnel invisible qui a fait tenir la société, mais beaucoup d'entre nous ont pu revisiter leurs priorités. Ça aussi a été un temps où la nature a repris ses droits. Pour tous les Parisiens, par exemple, la réouverture des parcs,
bien sûr,
après plusieurs mois, des parcs envahis par la végétation, avec des animaux beaucoup plus nombreux qu'avant, est une image très, très, très frappante.
Moi, j'ai cette image en tête. Les parcs étaient fermés, mais les gens, malgré tout, quand ils pouvaient sortir, allaient se réunir près des parcs, comme si au fond nos pas nous emmenaient de toute façon là, même si c'était fermé évidemment. Après Erwan Lecoeur, il y a eu aussi une espèce de d'inversion au fond pendant cette période-là. Les gens qui habitent loin de la ville sont les premiers, et à juste titre, à dire que les services publics souvent les ont abandonnés, que c'est plus difficile pour eux, qu'ils sont obligés de se déplacer en voiture, etc. Il y a eu cette espèce de retournement pendant le confinement où désormais eux avaient de la liberté, eux avaient la campagne, eux avaient la possibilité de sortir, ce que nous, dans les villes, qui avons tout à portée de main, n'avions pas, et peut-être d'ailleurs, du coup, avions plus de mal à vivre cette période de confinement.
Alors justement, à l'époque, je travaillais, je regardais bien les enquêtes, et ce qui était très très mal vécu dans les campagnes, c'est le fait que justement, ils n'avaient pas non plus le droit de sortir, que les gendarmes les arrêtaient aussi au fin fond des forêts.
On était en absurdie dans ce moment, à ce moment-là.
Voilà. Ouais. Et donc, si vous voulez, il y avait en plus ce sentiment absolument incroyable de, mais enfin, ils vont pas venir nous embêter jusqu'ici avec leurs gendarmes, alors qu'on n'embête personne et qu'on n'est pas en ville, on est loin des services publics, au moins qu'on puisse aller se promener dans la nature. Ce qui a été dit par l'auditeur précédent est très intéressant et très important. N'oublions pas que pendant le confinement, pendant le Covid-19, à certains moments, nous avons réalisé que pour la première fois, nous respections les accords de Paris et la COP21. Pour la première fois, le monde entier respectait enfin ce qu'il avait dit qu'il allait faire, c'est-à-dire décroisser un petit peu en production, en consommation, et se mettait un tout petit peu à l'aune et à l'encontre de la nature, qui était véritablement une des problématiques essentielles à ce moment-là. Je rappelle que dans tous les instituts de sondage, on disait que la principale préoccupation, c'était la crise climatique et la crise écologique. Et donc, on était là-dessus, un peu en phase, enfin, comme le disait l'auditeur, avec une vision de la nature reprend ses droits. J'irai plus loin, je dirais que pendant le Covid, quand on interrogeait les gens, je me réfère encore à l'étude de l'Obsoco, qui est vraiment excellente, il y avait des consultations citoyennes et les gens demandaient une augmentation du SMIC, le plafonnement des écarts de salaire, renforcement de la progressivité de l'impôt, la possibilité de révoquer les élus, un revenu minimum, l'autogestion, bref, on était dans le monde d'après. Je le rappelle parce qu'on l'a oublié aujourd'hui, mais pendant le Covid, il y a eu tout un tas de choses qui se sont échangées intellectuellement sur les réseaux, sur la question du monde d'après. Et puis juste après le Covid, eh bien, on est retombé dans la politique as usual, comme d'habitude, notamment avec la présidentielle. Tout ça a été balayé par les nécessités économiques et sociales sans doute, ou d'autres, et aussi par un certain nombre de phénomènes médiatiques qui ont fait que tout ça a été balayé. On a été extrêmement déçus par ce monde d'après qui a été porteur de bien, bien d'autres idées. Et donc, les Français étaient à 89%, nous dit cette enquête, en attente de changements profonds, de changements importants de la société, et estimaient que l'offre politique existante ne pouvait pas répondre à leurs attentes, mais pour 74% des Français.
Mais Yroane
Lecoeur, on avait là un paradoxe extrêmement fort dont on voit les conséquences depuis 5 ans maintenant.
Et en même temps, est-ce que vous ne diriez pas que les torts sont partagés quand on y songe? Parce qu'effectivement, il y a les politiques qui n'ont pas su répondre et on est reparti à business as usual. Mais nous aussi, on est reparti à business as usual. Enfin, je veux dire, on a repris nos voitures quand on avait une voiture. J'ai des souvenirs, moi, de files devant les magasins. On parlait de décroît, de société de consommation, etc. Et j'ai souvenir de files immenses dès que les magasins ont commencé à rouvrir. On était aussi, nous, pétris de ce paradoxe-là, à réclamer un monde d'après, mais avoir beaucoup de mal à renoncer à la vie et au monde qui était le nôtre et auquel, justement, on avait dû renoncer pendant 3 mois.
Je noterai juste une chose. Nous venions de désapprendre à faire la bise dans notre vie de tous les jours. Et nous attendions peut-être des gouvernants qu'ils nous proposent d'autres façons de se comporter, d'autres modes de vie que ceux qui consistaient à retourner simplement au magasin comme d'habitude. Ça, c'est mon premier point. Deuxième point, je dis bien, les gens voulaient des changements extrêmement profonds et considéraient que les gouvernants n'étaient pas capables de les mettre en œuvre. Et quelque part, dans les enquêtes qualitatives que l'on a, les gens eux-mêmes considéraient que eux-mêmes, en termes de mode de vie, n'étaient pas capables de changer leur mode de vie par eux-mêmes. Mais ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille par ailleurs dans la transition écologique. Si vous demandez à un fumeur s'il est prêt à arrêter de fumer, non. Si vous le faites arrêter de fumer, alors ça change les choses. Ça, c'est un premier point. Et puis, je vais me permettre un deuxième point assez rapide. De toute façon, ce qui s'est produit à ce moment-là, au moment de l'après-Covid, ça a aussi été une forte déception qui a entraîné, notamment chez les gens qui avaient quitté Paris, il faut s'en souvenir, Paris était déserté. Tout un tas de gens avaient décidé d'aller vivre à la campagne. Ces gens-là, pour une partie d'entre eux, sont restés à la campagne et vivent très très bien, et même mieux qu'avant. Et beaucoup sont revenus dans les villes, alors qu'ils s'étaient jurés de ne plus revenir dans les villes. Donc on a eu un mouvement, un premier mouvement, au moment du Covid, en 2020. Et puis il y a eu un retour de bâton, un backlash, comme dans plein d'autres domaines, féminisme, écologie et autres. Il y a eu, bel et bien, un retour de bâton, je dirais un dur retour à la réalité de l'après-Covid.
Voici Raphaël qui nous attend depuis un moment. Bonsoir Raphaël.
Oui, bonsoir. Merci beaucoup de votre émission et merci de prendre mon appel. J'avais écrit un message sur WhatsApp, donc je pense que je vais lire ce que j'ai écrit. Je suis assez émue parce que ça rappelle une période qui a été un peu contrastée.
Allez-y Raphaël.
C'est vrai, j'entendais donc ceux qui disaient j'ai aimé le confinement, on a jardiné, etc. Moi, j'avais pas mal d'amis, membres de la famille qui postaient sans arrêt des photos de leur jardin. Je voudrais qu'on n'oublie pas ceux qui vivaient voilà, dans des petits appartements avec des enfants en bas âge à gérer en plus du télétravail. Et pour certains, je pense que ça a donné lieu à des vraies violences intrafamiliales et conjugales. Alors là, je suis un peu émue en parlant. À l'époque, j'étais divorcée depuis 2 ans. Et en fait, avec mon ex-mari, nous avions dit, en fait, heureusement que nous étions séparés. Et c'est vrai que je pense à des couples qui ont dû vivre sous le même toit alors qu'ils étaient peut-être en train de se séparer ou dans une ambiance difficile. Et je crois que voilà, il y avait une vraie fracture entre ceux qui avaient la chance d'avoir de l'espace,
Voilà. Et qui pouvaient aller se confiner à la campagne et les autres. Je vais vous donner la parole, Laetitia Atlanidio. Merci beaucoup, Raphaël. Je voudrais rajouter Patricia qui dit « Il n'y a pas beaucoup de pauvres qui témoignent sur Inter ce soir, travailleuse sociale. Je suis travailleur social, c'est ce que je comprends, et j'ai vu des personnes confinées dans des chambres, pas en capacité de remplir leurs attestations, se faisant même parfois arrêter par la police. On n'est vraiment pas égaux, Laetitia Atlanidio. »
Absolument, et c'est aussi ça que je voulais souligner depuis un moment. Les témoignages que l'on présente rappellent cette très très forte inégalité, hein, devant le virus, mais aussi devant les mesures qui ont été prises dans la gestion de crise. Les plus pauvres sont ceux qui sont morts en priorité. Les plus pauvres sont ceux qui ont vécu le plus mal pendant, en particulier, la première phase de la gestion de crise. Vivre dans des tout petits espaces, avoir des revenus insuffisants. Beaucoup de gens, par exemple, qui n'étaient pas salariés, ont vécu des situations très compliquées. Les violences interfamiliales ont explosé. Ouais. Les questions de santé mentale ont été centrales. Encore beaucoup de gens, dont des jeunes, mais pas seulement, souffrent de cette période. Aujourd'hui, on a parlé des Covid longs, on a parlé des morts, on a parlé des deuils. Il faut rappeler que la pandémie a été vécue de manière très différente et pour certains comme une période heureuse. Ça reste une minorité. Les soignants, le personnel invisible, ce qu'on a appelé les invisibles, et plein d'autres l'ont vécu très douloureusement.
Je voudrais, pour terminer, vous livrer cette remarque de Benoît sur le site qui est dans le Morbihan. Je trouve qu'en se repliant sur notre pays, on a tendance à voir le pire, mais j'ai eu la chance de voyager entre les confinements. Quasiment tous les participants trouvaient la gestion française très bonne comparée à leurs pays respectifs. Par exemple, les Allemands, dont les écoles sont restées fermées pendant très longtemps, enviaient la France qui avait fait le choix de les rouvrir. Quand je me regarde, je me lamente. Quand je regarde ailleurs, je me console. C'est ce que nous dit Benoît. Et je voudrais embrasser Mu qui a envoyé un message pour nous dire qu'elle avait passé du temps à nous écouter pendant la période du confinement. Le message est très gentil, donc merci beaucoup et merci à tous.